La radio du festival, Fil Bleu,
avec Andrea Magnim sur Radio Lomé.
Vous écoutez la radio du festival sur Radio Lomé. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce numéro, le premier de la semaine. Peut-on se passer de la langue française? C'est le sujet du jour. Ce 20 mars, 274 millions de francophones sur 5 continents, aussi bien dans les 80 États et gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie que dans ceux où le français est moins parlé, fêtent leur langue en partage et la diversité de la francophonie. Quelle est l'importance du français? Nous allons essayer de répondre à cette interrogation avec nos invités fil rouge du jour. L'homme de lettres et secrétaire général de l'AET, Association des écrivains du Togo, Claude Assiobotis, et l'écrivain et professeur de littérature américaine à l'université de Lomé, Cal Avonon. Ensemble donc, nous allons parcourir les différentes rubriques du jour. Le livre du jour, un livre en évé, Tomé de Essivi Foli Avli, et le portrait du slameur Caporal Wisdom, un reportage sur la littérature éveillée et la visite de la bibliothèque de l'artiste plasticien Kossi Assou. Et nous rappelons qu'à l'occasion de ce 20 mars, journée internationale de la francophonie, nous allons essayer de savoir si l'on peut se passer de la langue française. Vous êtes bien sur la radio du festival sur Radio Lomé, et je le disais tantôt dans le sommaire, nous avons aujourd'hui deux invités. Le premier est homme de lettres, ancien professeur de français au collège Saint-Augustin de Togoville, secrétaire général de l'association des écrivains du Togo AET, Claude Assiobotis. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons aussi un professeur de littérature américaine à l'université de Lomé, chercheur en littérature de race, Cal Avonon. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, Claude Assiobotis, d'abord, comment se porte l'écrivain togolais aujourd'hui?
Je crois que l'écrivain togolais se porte bien. Et il fait tout pour faire progresser aussi son métier et la littérature togolaise en général.
Voilà. Et l'ancien professeur de français, l'ancien enseignant togolais.
L'ancien professeur de français s'investit toujours dans l'écriture. Et puisque mon dernier ouvrage, ce n'est pas une œuvre de fiction, mais c'est un ouvrage didactique qui parle de la création littéraire et comment l'écrivain doit l'aborder, comment le lecteur doit la découvrir. Voilà.
Alors, qu'à l'avenant, à ce qu'il paraît, vous êtes du genre taquin.
Ah, ça, c'est les autres qui le disent.
Alors, comment êtes-vous arrivé à la littérature et pourquoi cet intérêt pour la littérature de race?
Bon, d'abord, je vous remercie. Et je veux exprimer aussi mon plaisir d'être à Radio Lomé pour la première fois dans ma vie. C'est la radio de toute ma vie. J'ai suivi beaucoup plus l'émission Anthologie du mystère à Radio Lomé. Et donc, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Disons que j'aime beaucoup ce qui est abstrait. À partir de l'abstrait, nous pouvons redéfinir ce que nous voyons de concret dans nos vies chaque jour. Donc, c'est ce qui m'a amené le plus tôt dans les livres. Étant donné aussi que j'aime la solitude. J'aime rester seul et lire. Donc, au fait, écrire pour moi, c'est une forme de réponse à tout ce que j'ai lu dans ma vie. Donc, je crois y rester toute ma vie. Maintenant, à propos de littérature et race, je crois que il y a un grand travail que nous devons faire au niveau de nous, Africains. Et il y a plein de choses, plein d'informations aujourd'hui que nous pouvons avoir à propos de la présence du noir dans la littérature des autres et dans la littérature que nous créons nous-mêmes. Quelle image nous donnons de nous-mêmes? Quelle image les autres ont donné des noirs? Et inversement, quelle image, quel regard nous avons sur, par exemple, les blancs, les asiatiques, dans la littérature que nous créons nous-mêmes? Donc, je crois que c'est un vaste champ de recherche et je crois y rester pendant un bon moment.
Alors, nous allons revenir tout à l'heure sur votre œuvre Condamnée sans souci. Claude Assiobotis, vous êtes l'auteur de la trilogie romanesque Les Métamorphoses de Kofi, Les Frères Siamois, Pêcheurs de Sirènes. L'amour et le sang aussi est une de vos œuvres et c'est cette dernière donc qui nous intéresse aujourd'hui. Il s'agit d'un essai littéraire, un genre pas très prisé par les écrivains togolais.
Oui, c'est vrai. L'essai, c'est un genre qui ne court pas la rue, c'est dans nos pays. Et précisément ici, souvent lorsqu'on parle de l'excès, on a tendance à l'exclure du champ littéraire. Parce que la plupart des essais sont des essais scientifiques, des analyses très froides et produites par ceux qu'on appelle souvent des écrivains, qui ne sont pas des écrivains, c'est-à-dire ceux qui font des recherches. Ici, l'argumentation a pris la forme d'une lettre avec toute la sensibilité de l'auteur et ça a donné un essai épistolaire que j'ai intitulé « L'amour et le sang ». Mais je ne suis pas le seul. Edem Kodjo a déjà pratiqué le genre avec son dernier livre, Lettre à l'Afrique centenaire. Je crois.
Et justement, parlant de cette œuvre, Lettre à mon ancien élève, est un ensemble de lettres présentées comme réponse d'un professeur à son ancien élève. Mais au-delà, vous explorez à travers cette œuvre l'histoire de l'Afrique, l'humanité et les hommes en général.
Oui, je crois que cette œuvre, en réalité, c'est tout le substrat de toutes mes œuvres. Elle est venue en quatrième position, mais je crois que c'est l'introduction. Et l'écrivain, c'est comme ça. Et on peut commencer l'introduction au milieu de son travail. C'est ça aussi l'écriture. Et alors, l'amour et le sang résume toute mon œuvre. Et pourquoi l'amour et le sang? D'abord, c'est pour dessiner des relations d'équation et d'inéquation qui peut exister dans les deux concepts. Et le sang est synonyme d'amour lorsqu'il s'agit du sacrifice de soi pour les autres. Et le sang est le contraire de l'amour lorsqu'il s'agit de sacrifier l'autre. De sacrifier l'autre, le sacrifice de l'autre. Ce à quoi nous assistons souvent. Et ce à quoi nous assistons souvent, je ne sais pas si on va revenir là-dessus, sinon je peux développer un tout petit peu.
Allez-y.
Je crois que c'est moi, tout parle du concept, de ce constat, que nous sommes aujourd'hui enclins plus à sacrifier les autres que de nous sacrifier pour les autres. Et ça, c'est ce que j'appelle le complexe de Mami Wata. Disons que la cause, c'est ce que j'appelle le complexe de Mami Wata. Qui est très, la Mami Wata est très présente dans mon... C'est une personne très présente dans mon œuvre. Et c'est quoi le complexe de Mami Wata? C'est cette propension de l'homme aujourd'hui à se valoriser par rapport aux choses, à tirer sa valeur d'homme par rapport aux choses, que de se valoriser par rapport aux autres. Hein, le complexe de Mami Wata. Je suis plus lourd que les autres parce que j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai ceci, j'ai cela. Et c'est malheureux. Et c'est le complexe-là de se croire supérieur aux autres parce qu'on a des choses. Et c'est ça que j'appelle le complexe de Mami Wata. Et c'est ça que j'ai brodé longuement dans l'œuvre. J'en ai parlé longuement avec toute l'ironie qu'il faut. Et à la fin, je suis arrivé à ce concept qu'on appelle la puissance. La puissance, pour moi, ce n'est pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est cette chose dont on jouit. Mais alors que la puissance, c'est la capacité d'avoir le pouvoir et de le mettre au service de la sagesse. Parce que la puissance a toujours beaucoup de marge, hein, beaucoup de potentialité. Et il s'agit de mettre le pouvoir au service de la sagesse. Voilà à peu près résumé en deux phrases, hein, de façon impossible.
De longues phrases.
Hein. Voilà.
Justement, en parlant de cette œuvre « L'amour et le sang » publiée aux éditions Audi, vous y inventez et définissez de nouveaux concepts comme le réel idéalisme, par exemple. Parlez-nous-en.
Le réel idéalisme, ça consiste à... Bien sûr, je veux me sacrifier pour l'autre. Mais attention, l'autre est dangereux aussi. Et même si j'ai un idéal, auquel j'aspire, il faut faire attention, il faut avoir les pieds sur terre. Et c'est progressivement qu'on doit y arriver. Et alors, donc, pour garder, préserver sa vie, il faut être dans ce que j'appelle le réel idéalisme, qui est formé de réel et de l'idéalisme. Hein. C'est de ne pas perdre de vue le réel, tout en ayant un regard sur son idéal, sans jamais l'abandonner, quitter cet idéal-là.
Et voilà. On finit par se demander si l'amour et le sang est un essai ou plutôt une fiction narrative.
Oui, c'est une fiction. Et un essai, et je l'ai déjà dit, c'est un livre épistolaire, c'est une lettre, c'est une fiction. Mais comme c'est une argumentation, ça devient une fiction. Il y a tout à la fois, hein, l'essai, mais ce n'est pas un essai scientifique, comme le feraient les chercheurs d'université, comme Calavoyant, non. Je suis toujours dans la fiction, je joue, je fais tout. Moi, les frontières, je les brise, hein. Je vais, je viens, je fais tout ce que je veux. C'est cette liberté-là qu'a l'écrivain de faire beaucoup de choses. J'aurais pu être philosophe. Si j'ai refusé de l'être, je ne veux pas m'enfermer dans les carcans de l'analyse scientifique qui ne vous permettra de presser toutes vos sensibilités. Voilà.
Mais vous écrivez comme un philosophe.
Bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de philosophie derrière. Beaucoup de philosophie derrière.
Voilà. Alors, Calavoyant, quant à ce qui est de votre œuvre, condamné avec souci, édité aux éditions Audi aussi, qui est votre premier roman. Environ 160 pages, hein, cette œuvre, couverture non comprise, est écrite en trois parties. Comment ça va commencer, ça commence, puis ça refuse de se terminer.
Et voilà, c'est une histoire, je dirais que c'est d'abord une fiction. C'est pas, les personnages ne sont pas réels, les lieux ne sont pas réels, donc l'histoire n'est pas réelle. Donc pour écrire ce livre, je l'ai fait par rapport à, comme j'ai dit, au livre que j'ai déjà lu. Et je regarde beaucoup les films aussi. Et donc, c'est à partir des héros que j'ai lus. J'ai trouvé que les héros, dans les livres que j'ai lus, dans les films que je regarde, ils sont, à mon avis, trop forts. C'est-à-dire que leur créateur leur donne trop de force. Et je me demande souvent d'où leur vient cette force. Parfois, même à la dernière minute, ils ont une force pour pouvoir transcender de tout. Pour moi, c'est pas très clair, c'est pas très normal. Et J'ai vu aussi que la création littéraire, à partir des héros que nous voyons, il suscite de la sympathie, du soutien des autres. Voilà, c'est au regard de tout ça que j'ai voulu créer un personnage central, un héros très faible, qui n'a pas voulu qu'on le soutienne, qui n'a pas voulu qu'on ait de la sympathie pour lui, c'est pas ça qu'il veut, et qui n'a même pas voulu être un modèle pour les gens. C'est pourquoi il a été accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Logiquement, lorsqu'on irait à la justice, il devait se défendre, il devait chercher un ou des avocats pour se défendre. Mais il a plutôt cherché à aggraver son cas à la cour. Il a été accusé de tentative de viol et de bousculade. Mais à la justice, il a dit que ce n'était pas une tentative, mais c'était du viol consommé. Donc, du coup, ça a aggravé son cas. Et donc, il n'a pas cherché à se défendre de cette manière et pour aller en prison. Et qu'il a accepté aussi ordinairement.
Un langage assez soutenu que Yaovi Glokpo, un de nos collaborateurs, qualifie de distingué, que vous rédigez à la première personne. Vous parlez un peu de vous dans cette œuvre.
Il n'y a pas du tout moi dans cette œuvre.
Il y a beaucoup de jeux.
Oui, oui. D'abord, je crois que j'ai le plus apprécié dans ma vie les livres écrits à la première personne. Pourquoi ? Parce que la première personne n'est pas omniscient. L'histoire se passe seulement autour de lui. Il ne peut pas lire dans la tête des autres. L'histoire ne se passe pas sur le lieu où le jeu ne se trouve pas. Donc c'est vraiment limité et je l'aime. Ça permet de creuser la psychologie du narrateur. Au lieu qu'il aille parfois, lorsqu'il est le narrateur est à Radio Lomé, il va profiter pour parler de quelque chose à la plage, quelque chose à Thévier, etc. Mais il limite tout au lieu où il se trouve. Et il ne cherche pas nécessairement à dire ce qui se passe dans la tête des autres, puisqu'il ne les connaît pas. Donc voilà un peu la force de la narration à la première personne. Et je l'ai beaucoup aimé. Sauf que j'ai appris que la prochaine fois, je vais faire différemment. Il y a la suite de cette histoire. Puisque ça refuse de se terminer là. Mais je ferai ça à la troisième personne pour que les gens n'aient pas toujours cette confusion que quand on raconte une histoire à la première personne, c'est nécessairement l'auteur. Mais tout compte fait, entre Bill et moi, il n'y a aucune ressemblance.
Et voilà. Vous parlez de la suite de cette histoire, l'histoire qui se déroule à Stresstown, où tout le monde semble vouer un culte à Monsieur Dieu et sa famille, les Vossaillères. Pourquoi ce nom, Monsieur Dieu?
Voilà. Dans l'histoire, c'est Bill, le personnage central. C'est lui seul qui l'appelle Monsieur Dieu. Son nom, c'est Vossaillère, c'est un juge. Mais les habitants, vous voyez que dans la tradition juridique, les juges, on ne les appelle pas maîtres, mais c'est les avocats. Mais à cause de sa suprématie omniprésente dans la ville, il prend ce titre de maître. Maître d'abord, ici à ne pas confondre avec le titre juridique, mais le maître, le master de la ville de tout le monde.
Le maître suprême.
Voilà, le maître suprême que tout le monde aime, le grand philanthrope. Mais non, c'est à cause de son comportement que Bill l'appelle Monsieur Dieu. Il joue au Dieu, celui qui connaît tout, celui qui sait tout, celui qui donne tout, etc. Donc, Bill, il appelle, on dit Dieu, mais je ne sais pas si on dit souvent Monsieur Dieu, mais Bill, c'est quelqu'un aussi, malgré son état taciturne, il est très taquin et il ironise sur beaucoup de choses. C'est pourquoi il appelle Monsieur Dieu.
En tout cas, c'est dans votre œuvre que nous avons découvert Monsieur Dieu. À quand une prochaine œuvre de Calavoyant?
Je crois que j'ai jusqu'à la fin de l'année 2017 pour publier la suite de l'histoire qui est d'un condamné avec souci.
Voilà, et nous partons tout de suite pour notre toute première rubrique du jour. Il s'agit de la présentation de l'ouvrage Tchomemania de Ayédé et Sivi Justine Folly Avli, une présentation de Gabriel Adibli. C'est donc l'heure de la rubrique Le livre du jour avec Gabriel Adibli. Votre choix vient de la littérature EV. Le titre et l'auteur, Gabriel.
Oui, Andrea, c'est
Fil bleu. Le livre du jour.
Le livre du jour, c'est Tsomemania de Ayede et Sivi Justine Folie-Abli. C'est sorti à l'imprimerie Vision. Broché, 81 pages.
Alors, Tsomemania, un titre qui me fait penser au poète de Napoléon II, Victor Hugo, dans ses propos, non, l'avenir n'est à personne.
Tout à fait, Andrea. Victor Hugo, dans Les Chants du Crépuscule, si j'ai bonne mémoire, de quoi demain sera-t-il fait ? Nemo shit. Personne ne sait, nul ne connaît l'avenir. Tsomemania, c'est justement de cela que parle Madame Ayede et Sivi Folie-Abli.
Quelle en est alors la structure ?
Alors, le livre comporte deux parties. La première partie, de la page 5 à la page 54, est le roman. Et la deuxième partie, page 55 à 81, plutôt réservée à un florilège de textes poétiques rakpanya, comme on le dit en évé.
Voilà, c'est une plume qui retrace la vie sociale traditionnelle, tout caractérisée par les vertus cardinales de la solidarité, de l'entraide, de la vie fraternelle, mais mise en danger par l'esprit individualiste et égoïste.
Tout à fait. Substantiellement, c'est ce qu'on peut garder à la lecture de ce roman écrit en évé. En effet, l'auteur met en opposition deux types de vie à travers deux couples de familles dans un petit village, Dzramedo. Le premier couple est le prototype même de l'esprit individualiste, égoïste, et incarné par les personnages Mauo et Migagogomio. Vous voyez déjà ce que dit le nom. Quant au deuxième couple, il incarne l'esprit de solidarité et d'entraide fraternelle. Diofia et comme le dit Novi Vivi et Amerekae Mienye.
À quoi fait alors allusion l'auteur à travers les personnages de son œuvre ?
L'auteur fait allusion au sens et à la portée des noms que les gens portent. C'est sa conviction que le nom influence la vie et le comportement de celui ou celle qui le porte. Elle exhorte donc les parents à bien réfléchir avant de donner les noms à leurs enfants. Ce qu'il faut surtout retenir à la lecture de ce roman, c'est la leçon de solidarité et l'esprit de correction fraternelle.
En parlant de l'auteur, vous avez parlé de poésie. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu, un extrait de ces poésies-là ?
Cette poésie, alors, ici, je vous propose Amenyode. Amenyo Bodem Vi. Abe Yamovu le Alilikpo Godon. Mele Oyom Sassien Gake. Oyidem Vi. Amenyozu Didifu Nolao Lantinya. Nyemokboga. Madovu Ayiwagbo. Amenyozu Yafofo le Hekhiam Godo. Tonya Numa Kukumela. Me va dogo amenye vava siwenye mautola vila kule gbagboko kwela ametosiawo molwanu le gbonye o ofiambe malebe na nyanyuila be madove vienu ahawode wodi. Voilà un extrait de ce poème écrit en évé par Ayede et Sivi Justine Folie-Abli.
Voilà, ça donne envie d'acheter cette œuvre et de la lire. Nous allons passer sans transition à la rubrique Portrait du jour. Nous partons à la découverte d'un jeune slameur togolais, Wisdom Kunake, connu sous le nom de Caporal Wisdom. Présentation, Léo Agbou.
Fil bleu, la radio du festival du 14 au 22 mars sur Radio Lomé. Fil bleu, portrait.
Je rêve d'un pays nouveau.
Bonjour, salut, moi c'est Caporal Wisdom, à l'état civil, Kunke Kouyrola Wisdom, artiste, slameur, poète, animateur d'émissions slam togolais.
Venu de nulle part, Caporal Wisdom, le jeune slameur, a fait le tour des émissions médiatiques et a aussi participé à tous les ateliers slam organisés au Togo. Partisan de paix, mais aussi soldat du changement de mentalité, la majorité de ses tests exhorte la jeunesse à adopter adopter un meilleur comportement pour éviter la dépravation des mœurs et l'incivilité en vue d'un meilleur avenir.
Moi, mes ambitions, c'est de pouvoir changer la jeunesse par mes textes, par mes chansons, leur inculper des notions de bon comportement, de civisme, de patriotisme, et de leur donner espoir à un avenir meilleur, et que ça ne viendra que par le travail.
Une lettre à ma génération. Génération perdue, génération pendue.
La chanson de l'artiste slameur et parolier Caporal Wisdom, intitulée « Lettre à ma génération », a connu un succès fulgurant depuis sa sortie. Les mots sages de l'artiste appelant à une prise de conscience des jeunes a marqué les esprits dans l'arène musicale du Togo, mais aussi dans le monde entier. La chanson a inspiré l'artiste italien Watsi, qui s'en est inspiré pour produire la version italienne.
En fait, Watsi n'est pas le premier artiste à rémisser. Il y a déjà eu hashtag Ari hashtag du Togo. Il y a eu Dad le slammer de l'Haïti qui a déjà reproduit. Il y a eu le caméléon de la Mauritanie qui a reproduit. Donc Watsi a été la troisième personne à reproduire. Ça, pour moi, c'est une réussite. C'est une réussite de cette chanson. Et je crois que aujourd'hui, en quelque sorte, mes objectifs par rapport à ce titre ont été atteints d'une manière ou d'une autre, parce que c'est pas évident de reprendre une chanson.
Génération approchée, regardez mes bigans, ça ne parle que de cesse, de fesses sans cesse, génération perverse.
Caporal Wisdom, en cette journée du 20 mars où on permet au grand public de fêter la langue française, vous toi qui parles la langue française, pour qui la langue française est un outil, comment est-ce que tu arrives à manier la langue française, à jouer sur les mots?
À vrai dire, c'est pas facile, puisque c'est une langue importée et tout. C'est une langue qui nous a été imposée d'une manière ou d'une autre à l'école et tout. Donc, pour moi, c'est plus facile à moi de faire des tests en EV et tout, vu le public que j'ai. Et mes tests, la langue par rapport à mes tests, moi, je l'ai choisi par rapport à qui je veux m'adresser. Si je veux m'adresser par rapport, par exemple, aux bonnes dames du marché qui n'ont pas été forcément à l'école, je suis obligé d'aller dans leur langue, leur parler dans leur langue pour qu'ils puissent comprendre.
Un message à cette génération qui t'écoute en cette journée internationale de la francophonie.
Je crois que ma génération est déjà avertie par rapport à tout ce que nous avons dit dans la lettre à ma génération. Donc si j'ai quelque chose à dire, c'est que aujourd'hui, moi, je suis en train de regretter quelque chose, c'est de ne pas avoir des cahiers de français au lycée. Tu vois, et c'est, en toute franchise, j'ai jamais eu de cahier de français au lycée. Et aujourd'hui, ça me rattrape. Je serais peut-être mieux si j'avais des cahiers de français au lycée. Si j'avais eu des cahiers de français au lycée, je me rappelle quand je devais préparer mon bac, j'ai dû piquer le cahier d'un ami une semaine et je l'ai remis après pour préparer le bac et à l'examen. J'ai eu 12 de moyenne. Donc je me suis dit, mais si j'avais des cahiers de français, ça veut dire que j'allais être mieux.
Caporal Wisdom a été successivement primé au All Music Awards 2015-2016 dans la catégorie messager parolier et élevé au rang de héros à la deuxième édition de The Heroes, événement qui prime les artistes qui ont marqué la scène togolaise au cours de l'année écoulée.
Du 14 au 22 mars, suivez le festival Fil Bleu sur Radio Lomé.
C'était donc le portrait de Caporal Wisdom. Il est slameur et parolier. Calavonon, vous avez suivi le reportage. Vous connaissez le slam?
Je connais bien le slam et je l'apprécie.
Et le Caporal Wisdom, le jeune slameur, vous avez entendu parler de lui?
Oui, on s'est vu même une fois.
Claude Dacio-Bottis, le slam?
Oui, le slam. Il y a très peu de frontières entre le slam et la littérature. C'est un jeu de mots avec tourbillon et qui ne peut pas vous laisser indifférent. Hein. Et je crois que le genre se développe pas mal au Togo. Et nous avons des portes flambeaux maintenant, dont Caporal Wisdom. Je m'en réjouis. Et dans le cours de la caravane littéraire, j'ai découvert aussi nos talents. Et je crois que c'est pas mal. Et c'est la littérature vivante, hein, comme le conte, et le théâtre. Et ça, ça a l'avantage d'être court, les prestations. Et c'est bien que de tels, moi je les appelle écrivains, hein, vivants, peuvent s'assurer avec les écrivains dans leurs prestations. En prison, j'ai fait la remarque qu'au moment des intermèdes, ils ont été très très utiles. Ils ont été vraiment la vedette.
Alors, Calavonio, qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes Togolais qui s'intéressent beaucoup à ce genre musical aujourd'hui?
Il est vrai, je vis avec un d'entre eux à la maison. Je ne vais pas donner le nom pour des raisons d'intimité. C'est un travail qui est vraiment appréciable et que nous devons aussi encourager. C'est de la pure création littéraire et je crois que c'est une manière aussi aux jeunes de s'exprimer. Vous savez, on est à une époque de la vie où maintenant parler juste ça ne veut rien dire. Mais quand on parle d'une manière raisonnée, et c'est ça aussi l'écriture, on écoute beaucoup plus. Il y a beaucoup de beauté poétique dans ce que les slameurs, les jeunes slameurs togolais font. Et lorsque nous pouvons aussi l'utiliser à des fins didactiques, il y a beaucoup de leçons, il y a pas mal de leçons que moi j'ai apprises avec les slameurs. Avec aussi, j'ai participé une fois à un événement avec le menteur. Quelqu'un qui s'appelle le menteur, vous devez le connaître.
Menteur ambulant.
Oui, je ne savais pas qu'il y avait aussi de la richesse dans la jeunesse togolaise à ce point. Donc c'est une chose que personnellement je pense que nous devons encourager les jeunes à continuer de faire.
Voilà, encourager les jeunes slameurs à continuer. Oui. Et nous passons dans cette émission au reportage du jour qui porte sur la littérature éveillée. La littérature éveillée existe-t-elle réellement? Quel est l'état des lieux? Gabriel Adjibli a interrogé Simon Agbeko Amegbleame, professeur de littérature africaine et comparé aux universités de Lomé et de Kara. Et Linus Kofi Nwagbenakpoe Gbekobu, enseignant à la retraite, chercheur en linguistique appliquée, ancien responsable des langues nationales à la DIFOP.
Radio Lomé.
Il existe bel et bien une littérature éveillée. Une littérature éveillée que j'ai étudiée il y a une bonne vingtaine d'années déjà. Quand je faisais ma thèse de troisième cycle, j'ai travaillé essentiellement sur la littérature éveillée. Et donc, il existe bel et bien une littérature et pas des éveillés, en langue éveillée. Bon, quand on parle de littérature, c'est en dehors des contes, des proverbes, il y a aussi des romans. Je ne donne l'exemple que de les deux que j'ai traduits ensemble avec un ami Ariavi Martin. D'abord, Agbezougué. Le titre original, c'est Amegbetoa, Allo Agbezougué Bentinya. Ce que j'ai traduit à Megbetoa ou les aventures d'Agbezougué.
De Sam Obianim.
De Sam Obianim, oui. Après, il y a eu d'autres. Et ce qui m'a intéressé par la suite, c'est le roman policier qui a été écrit en langue éveillée et qui a été intitulé Kouleromé.
C'est de qui?
C'est de Seth Akafia. Nous avons encore traduit et que nous avons intitulé Drame à Tanigwe. Parce qu'il s'agit effectivement de drame, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème d'héritage entre les frères de même famille et cela a donné lieu à un roman policier. C'est un véritable roman policier et c'est ça qui m'a intéressé ou qui nous a intéressé, M. Ariavi et moi, et nous l'avons traduit et ça a été publié par les éditions Rao en 2014. Donc aujourd'hui, il existe une littérature éveillée, bien connue. C'est-à-dire que si on veut s'intéresser à cette littérature, on trouvera des poèmes, on trouvera des contes, on trouvera des pièces de théâtre, des romans, et particulièrement un roman policier. Écrire un roman policier en éveillé, c'est intéressant. C'est pour ça que nous avons essayé de le traduire en français. On n'a pas encore fait la dédicace, mais ça va venir.
Quels sont les auteurs qu'on peut citer quand on parle de la littérature éveillée ici, chez nous, au Togo? Et au Ghana, on connaît les Sam Obiani, Ntouakor et les autres.
Il y en a beaucoup. Mais au Togo, Est-ce que j'ai un nom en tête maintenant? Il y a Bukobo Linus.
Adjomada?
Oui, Adjomada. Oui. Le père Adjomada.
Oui.
Bon, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est d'inciter les jeunes qui font des doctorats à travailler sur la littérature éveillée. Moi, je ne suis pas éveillé. Je lis l'éveillé, mais je ne suis pas éveillé. Donc, il y a des...
Et pourtant, vous êtes investi.
Je me suis investi parce que ça m'a intéressé. Quand on écrive un roman policier en éveillé, c'est toujours intéressant à voir. Et donc, je me suis intéressé à ça. Dans les années, je ne sais plus quelle année maintenant, j'ai fait ma maîtrise à Toulouse. Et puis après, il y a un professeur qui avait enseigné ici, Alain Ricard, et qui m'avait demandé à l'époque de faire une bibliographie de la littérature éveillée, ce que j'avais fait. Et après, quand il s'est agi d'écrire ma thèse, il a dit, mais pourquoi ne pas travailler sur la littérature éveillée? Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai rassemblé, j'ai beaucoup voyagé au Ghana, j'ai rencontré certains des auteurs, il y en a qui sont morts aujourd'hui, et j'ai pu rassembler ce qu'il fallait pour ma thèse, c'est ce qui s'est passé.
Monsieur Linus Kofi Nwagbenakpwe Bekobu, vous êtes enseignant à la retraite, chercheur en linguistique appliquée, ancien responsable des langues nationales à la DIFOP. Est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans les librairies ou auprès de vous quelques livres de référence en éveil?
Bien sûr, chez moi, j'ai écrit plus d'une douzaine de livres, dont Nya Evegbe, qui est une grammaire éveillée, tome 1 et 2. Nya Evegbe Nye, c'est un livret d'orthographe éveillée. J'ai écrit Evegbe Konoukle Djihoseo, c'est nos coutumes et traditions et nos croyances. Evegbe Djekple Atadi, c'est-à-dire les proverbes et les idiomes en éveil. Je les ai chez moi, je les ai dans certaines librairies. Et j'ai aussi écrit Miape Konu, Allo Miape Nyenye, nos coutumes et traditions, ou bien notre identité culturelle.
Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison.
La littérature éveillée, c'est le thème du reportage du jour à Claude Achobotis. La littérature éveillée, qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez?
Puisque moi-même je suis éveillé, bon, mais je, en tant qu'étudiant, bon, on n'en a pas tellement étudié, mais j'ai entendu parler de cette littérature justement à travers le professeur Amé Gléamé. Et les noms qui reviennent souvent, c'est les mêmes noms. Et je crois que c'est une littérature qui a surtout son monde, ou qui est surtout basée au Ghana. Hein, les auteurs sont souvent ghanéens et les éveillés du Ghana. Mais je crois que ce n'est pas une littérature à dévaloriser. Hein, ce n'est pas une littérature à dévaloriser. Mais il y a ce décalage que nos langues sont plus parlées qu'écrites. Et si on peut en tirer des œuvres, et une façon plus concrète de développer une langue, c'est de l'illustrer. Et si, lorsque les œuvres commencent à naître dans cette langue-là, ça donne de l'espoir. De l'espoir. Et je crois que ce n'est pas à mépriser.
Calavognon, vous avez déjà eu à lire une œuvre en éveil?
Beaucoup d'œuvres en éveil. J'ai appris même à écrire l'éveil avant d'écrire le français. Lorsqu'on était enfant, il y avait une école qu'on appelait Hahosuku. Donc j'étais allé à Hahosuku. Il y avait une revue qui sortait qu'on appelait Gamesu, que je lis. Donc c'est dire que j'ai beaucoup lu en éveil, en littérature éveil, que je continue de lire. Et donc, j'écris aussi bien l'éveil que je le parle.
Donc, c'est possible qu'un jour, vous nous sortez une œuvre en éveil?
Oui, mais je ne suis pas très sûr. Je ne suis pas très sûr à cause du problème du lectorat. Il y a beaucoup de... C'est vrai, nous disons, nous défendons nos langues, mais nous n'avons pas vraiment une culture de l'écriture. à quoi ça sert de publier un livre que les gens ne liront pas? C'est aussi un problème. Nous le disons, mais il faut voir de ce côté. Si j'ai l'assurance un jour que je peux écrire en éveil et que beaucoup de personnes pourront le lire, je n'hésiterai pas. J'ai écrit des choses en éveil que j'ai. J'ai pas mal de choses écrites que je n'ai pas publiées. Il y en a que je ne publierai même jamais. Il y en a que je vais publier.
Ok, donc nous restons avec la littérature, mais pour aller dans une bibliothèque à 38 km à l'est de Lomé, sur la route d'Anero, un village, Djassémé, le fief de l'artiste plasticien Kossi Assou, Gracia Egom Ama, a visité sa bibliothèque. Voici ce qu'il a recueilli pour nous.
Fil bleu, bibliothèque de...
Bonjour Kossi Assou.
Bonjour.
Décrivez-nous votre bibliothèque.
Disons que ça va être difficile de décrire ma bibliothèque de manière scientifique. Je vais parler avec le cœur. Et disons que on y trouve un peu de tout. Pour sa part des catalogues d'exposition, parce que je suis plasticien et designer moi-même. Et donc, tous les catalogues d'exposition, les livres techniques sur l'architecture, sur l'art, sur la peinture, sur la sculpture, sur le dessin, sur la perspective, et même architecturale, puisque vous savez que je suis enseignant à l'EAMO, l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Et puis, je m'intéresse également à tout ce qui est anthropologique, tout ce qui est histoire, tout ce qui est spiritualité. Et donc, vous pouvez remarquer qu'au niveau de la spiritualité, vous avez presque toutes les tendances. Mais ce que vous voyez ici est à peu près le 10e ou le 12e de toute la documentation. Je pense que tout a commencé quand j'étais quand même au secondaire. J'avais envie de comprendre. J'étais dans le club de dessin à l'école Collège Saint-Joseph et puis je voulais comprendre un peu un certain nombre de choses. Et je pratiquais à l'époque les arts martiaux et donc je voulais dépasser les autres. J'étais un peu frêle. Donc j'avais des livres sur la musculation, sur le culturisme, sur les différentes techniques du karaté. En même temps, j'avais envie de faire le judo, l'aïkido. Je me suis donc acheté pas mal de bouquins. Donc mon argent de poche part dans les bouquins, dans les revues de karaté, d'arts martiaux, etc., etc. Ce qui fait que j'ai pu garder un certain nombre de choses.
Vous avez combien de livres dans votre bibliothèque?
J'avoue que je ne sais vous donner un chiffre très exact. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je peux tourner autour de 3000, hein. Sinon peut-être un peu plus. Parce que c'est quand même... des documents accumulés depuis presque 35 ans aujourd'hui, voire 40 ans, et donc les choses sont là.
Je confirme que la documentation y est, et venir lire à Djassémé, ce n'est pas du tout une perte, parce que l'atmosphère, le cadre s'y prête, un cadre assez somptueux, idyllique, et qui permet l'évasion, qui permet à l'artiste d'être très inspiré. Je voudrais vous soumettre à un exercice. On va voir dans les rayons le livre le plus ancien que vous avez encore dans votre bibliothèque. Est-ce qu'on peut faire un tour?
On peut faire le tour. Il y a un livre très ancien, L'art des jardins. J'aime bien jardiner. Je pense que j'hérite ça de ma mère.
Et vous l'avez acquis il y a combien d'années?
Il y a peut-être presque 20 ans à peu près, hein. Celui que j'ai vraiment acheté il y a très longtemps aussi, ça va être un livre sur l'architecture d'intérieur et qui présente un peu la technique de l'architecture d'intérieur. Il y a par exemple le primitivisme dans l'art du XXe siècle que j'ai acheté en 1986.
Qu'est-ce que c'est que le primitivisme?
C'est les arts traditionnels africains, kanaks, aborigènes. Voilà, ce sont des arts dits premiers. Et donc, ce livre en parle, c'est un gros livre que vous ne trouvez malheureusement plus sur le marché parce que ça dérange un peu la notoriété de ces artistes européens. Puis, dans le livre, justement, on pose un masque et puis à côté, vous voyez l'œuvre de Picasso qui a été inspirée ou dans lequel vous voyez vraiment que ce n'est que la reprise. Hein.
Quand on vient au niveau du rayon fiction, quelle œuvre vous préférez?
J'aime bien de la Vigicode, hein, et puis de Dan Brown. C'est une des fictions. Alors, ce bouquin, j'aime bien.
Lequel ?
Homo Disparitus. Hein, c'est des éditions Flammarion et c'est écrit par Alan Weissman.
Quel écrivain togolais lisez-vous régulièrement ?
Christian Ekwe, j'ai lu, bon, évidemment, mon ami Alem. Et puis, voilà, c'est surtout les deux. Abotazinsou, au niveau du théâtre, je l'avais lu à l'époque aussi.
Mais juste avant de partir, de retourner à Lomé, une dernière question. Pourquoi est-il si important de lire ?
Mais ça ouvre l'esprit. Hein, ça ouvre l'esprit, ça éloigne davantage l'horizon de la connaissance.
Kossé Assou, je vous remercie.
Merci beaucoup, c'est à moi l'honneur et je vous dis merci et à très vite.
Radio Lomé.
Nous sommes de retour de la bibliothèque de Kossé Assou depuis Djassémé. Vous avez écouté le reportage. Comment appréciez-vous cette bibliothèque, Claude Assiobotis?
Oui, bon, je crois que il est toujours dans son jardin, comme il aime le jardin. C'est un artiste. Et les livres, je crois que lorsqu'on une bibliothèque, c'est le jardin le plus beau, à mon avis. Le jardin le plus large, parce que ça épouse les dimensions de l'univers. Hein, et c'est le jardin le plus profond, parce que sur place, vous pouvez plonger en vous-même. Hein, et vous élever au ciel, hein, par les grandes idées que tout ça vous inspire. Hein, et la bibliothèque, c'est un jardin vraiment magique.
Alors, Calavono, vous avez une bibliothèque, vous ?
Oui, j'ai une bibliothèque moi-même, mais je suis aussi directeur de la bibliothèque de l'Université de Lomé. Donc, pour moi, la bibliothèque, c'est le meilleur endroit du monde.
Voilà, et nous allons passer au sujet du jour. On en a parlé dans le sommaire, vous le savez, ce 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Le thème 2017, c'est « J'aime et je partage », hashtag mon 20 mars, thème autour du numérique qui ouvre aux réflexions sur le changement, l'innovation, le développement durable et appelle à relayer donc les activités et sa vision de la francophonie sur les réseaux sociaux. Et c'est à l'occasion de cette journée que nous parlons aujourd'hui du français. Ce jour, peut-on se passer de la langue française? C'est la grande question. Cal Avognon, peut-on se passer de la langue française?
Bon, merci pour la question. Je vais essayer d'être bref mais très précis. Le français, comme toute autre langue dans le monde, je ne crois pas qu'on peut s'en passer. Une langue est vivante lorsqu'on l'utilise. Et donc, avec ce que nous connaissons aujourd'hui, la présence du français dans le monde, la présence du français dans les pays outre la France, dans les pays outre les pays francophones. Le français, c'est une langue forte que les gens utilisent à plusieurs fins, et pour se comprendre, qu'on utilise aussi dans le contexte de la mondialisation. Donc je crois vraiment et sérieusement qu'on ne peut pas se passer du français aujourd'hui.
Claude Assiobotis, on peut se passer du français?
Et je veux mieux comprendre la question et je me la repose. Et qui est ce « on » là? C'est les écrivains ou tout le monde? C'est les pays francophones?
C'est tous ceux qui ont le français en commun.
Oui, ça veut dire les pays francophones. Et est-ce que comme langue officielle, et je crois que volontairement, non. On ne peut pas... On ne peut pas, je ne crois pas. Et vous savez, il y a un adage qui dit c'est la seule langue qui permet, même à nos petits pays africains, balkanisés, colonisés, recolonisés, de communiquer. Et il y a mon cher ami Guy qui emprunte cet adage à Guy Missolé, qui emprunte ce langage, cet adage à quelqu'un, en disant que la route le plus rapide d'Abidjan à Lomé passe par Paris. C'est ça la réalité. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer sous la poussée de l'histoire. Hein, sous la poussée de l'histoire. Et si un jour l'anglais finit par tout envahir, Hein. Moi, j'ai surpris quelques conversations de francophones en train de dire à ses enfants, et vous savez, en entendant, vous pouvez oublier le français. Parce que apprenez l'anglais, c'est la langue de demain. Mais ça, en tant qu'écrivain, je ne le souhaite pas et nous allons lutter pour que ça n'arrive pas. Parce que je dois avoir peur aussi que mes œuvres s'écroulent si le français disparaît. Alors, ça, c'est la manière la plus intellectuelle d'être égoïste. Alors, sous la poussée de l'histoire, aujourd'hui, on a des pays comme le Vietnam, hein, où la langue officielle n'est plus le français. Il y a aussi l'expérience du Rwanda. Le français fait partie des langues nationales, des langues officielles, mais n'est pas la première langue. Donc, sous la poussée de l'histoire, je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais nous devons lutter. C'est la langue que nous avons tous en partage pour notre communication. Et nous y avons déposé beaucoup de sensibilité et beaucoup de créativité. Alors, je crois que c'est ce que je peux dire.
Alors, Carl Avognon, par rapport à nos langues, est-ce que la langue française éloigne les peuples de leur langue d'origine ou plutôt est-ce qu'elle permet d'avoir une langue en commun pour communiquer facilement?
Et d'abord, je ne pense pas parce que c'est tout est choix. Moi, par exemple, à la maison, je ne parle pas français. Je ne parle pas français à mon enfant. J'ai ma langue maternelle, je lui parle ça. Mais quelqu'un d'autre choisirait de parler français depuis le fœtus. Et donc, c'est une question de choix. Mais je crois que notre langue maternelle, j'appelle la langue maternelle la langue de notre âme. C'est la langue de nos rêves. Nous rêvons d'abord dans notre langue maternelle. Et donc, la laisser juste en l'air au détriment d'une autre langue, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Mais je reste encore avec ma conviction selon laquelle c'est un choix.
Voilà. Donc, c'est sûr, c'est bon, quelque chose à ajouter,
Claude? Non, c'est pour dire que ce n'est pas incompatible. Hein, une langue, c'est toujours une richesse. Et même les enfants qui ont une langue, qui ont plusieurs langues, ça leur permet d'avoir beaucoup d'inspiration. Donc, moi, je ne vois pas les langues maternelles et la langue officielle ou la langue d'emprunt. C'est des langues qui se complètent, qui se nourrissent, et des choses qu'il faut encourager. Il n'y a pas de conflit du tout.
C'est donc sur ces mots de Claude Assiobotis que se referme cette émission. C'est fini pour ce numéro de la radio du festival consacré à la langue française avec nos invités Claude Assiobotis et Carl Avognon, tous deux écrivains togolais. Un merci particulier à Claude Yaovi Glokpo pour son apport pour la réussite de cette émission. Merci à toute l'équipe Gabriel Adibli, Léo Agbo, Karine de Souza, Dina Koi, Gracia Egom, Geneviève Pognon, Yves Aounion. Un grand merci à Sophie Ekwe pour son expertise. Voilà, c'est Gérard Azanledi qui a assuré la mise en onde. Je vous dis merci à tous. Allez, portez-vous bien.
Hagleba et Sankado, là.